Champagne, bonjour. Nous passons la semaine dans l'Hérault et une étape à venir à Montpellier que je vous soumets lundi prochain, le 26 mars à 18h. Non, c'est pas lundi prochain, si. Non, c'est dans 15 jours. C'est fou comme dans ma tête, je suis déréglé par rapport au calendrier. Donc le 26 mars, dans une semaine et demie, on va dire comme ça, à 18h, à l'université Paul Valéry, une rencontre débat sur l'intérêt général au cœur des politiques culturelles. Belle question, soutenue par une problématique que les organisateurs argumentent ainsi. Les enjeux artistiques et démocratiques ont de plus en plus laissé place aux enjeux d'attractivité, d'image et de marketing territorial. D'où cette question, l'intérêt général est-il au cœur des politiques culturelles? Poil à gratter, partagé entre Catherine Trottmann, invitée, Claudie Le Breton et normalement Xavier Bertrand. Rencontre organisée par l'excellente revue culturelle, hélas, semestrielle Nectar, dont le bureau est en Haute-Garonne à Toulouse. Je vous la conseille, nectar-revue.fr. Le lieu est fascinant, en bordure du plateau du Larzac. Les constructions semblent venir d'une autre planète. Nous sommes dans une sorte de laboratoire de l'habitat. Ça s'appelle Cantercel. Annick Lombardet, cofondatrice du lieu, va répondre à nos questions. Puis à Béziers, depuis quelques années, un immeuble abrite un essai d'associations sous le nom de Cosmopolitech. Nous appellerons tout à l'heure l'un de ses présidents, Éric Lucas.
France Inter. Carnet de campagne. Philippe Bertrand.
Annick Lombardet, bonjour.
Bonjour.
Annick, vous êtes architecte et cofondatrice de Cantercel. Alors, il faut traduire par « chante la terre et le ciel ».
Oui, c'est ça. C'est un nom que nous avons donné à la création de l'association et donc du projet Cantercel. Et pour nous, l'architecture est un travail qui permet de bâtir, donc de sortir de terre et pour l'élever dans l'espace des matières et rendre habitable donc une portion de l'atmosphère.
Mmh. C'est une sorte de laboratoire que vous avez créé là-bas, dans ce bel endroit. Vous êtes à la limite du plateau du Larzac, c'est un lieu magnifique, on a une vue sur les Pyrénées, on pourrait voir la mer. Enfin, c'est un lieu superbe, c'est une sorte de paradis sur terre, c'est donc un laboratoire.
Oui, voilà. À l'origine, il s'agissait donc de développer une double activité, pédagogie avec des étudiants en architecture ou étudiants ingénieurs et des industriels qui auraient trouvé un intérêt à expérimenter leurs matériaux, leurs équipements et dans un travail pédagogique, donc pratique pour de futurs architectes ou ingénieurs qui sont plutôt destinés à des bureaux d'études et leur faire prendre pied dans la matière, en quelque sorte.
Et tout part d'un atelier sans espace créé par Jean-Pierre Campredon dans les années 70 sur le principe de l'architecture naturelle. Que faut-il entendre par architecture naturelle ?
Alors, une architecture qui prend comme modèle la nature. La nature dans son principe de croissance, dans son principe d'implantation. Ensuite, dans la fabrication, une architecture qui utilise aussi des matériaux naturels.
On peut aller sur le site de Cantercel, vous allez avoir des liens avec des vidéos. Avec vous, Annick, d'ailleurs, vous expliquez bien, et avec Jean-Pierre Campredon aussi, cette démarche. On parle de seuil, et vous parlez de seuil pour planter, on va le dire comme ça, c'est comme une pousse, on va planter une maison.
Oui, tout à fait. Et alors, pour nous, les endroits de seuil, c'est-à-dire qui sont entre deux entités, soit paysagères, soit deux entités d'espace, intérieur, extérieur, c'est un lieu privilégié d'habitabilité parce qu'on se nourrit d'impressions variées. On n'a pas toujours les mêmes sensations tout au long de la journée ou de la vie. Et c'est très important de varier les impressions sensorielles et sensibles, naturelles en quelque sorte, le contact avec tout ce qui nous entoure.
Ouais. Quand on parle de relocalisation, et c'est souvent le cas dans les carnets de campagne de l'économie, on parle d'une économie au service de l'homme et non l'homme au service de l'économie. On peut dire la même chose de ce rapport que vous mesurez entre l'architecture et la nature. C'est non plus la nature soumise à l'architecture, mais c'est l'architecture qui va se soumettre en fait à l'ordre naturel.
De toute façon, c'est inévitable. Mmh. On est de toute façon soumis à la nature et pourquoi pas composer avec et trouver un mode d'intégration surtout.
Alors, des bâtiments ont été construits, des bâtiments pilotes, vous allez voir, ils sont extraordinaires. Je vous conseille d'ailleurs la revue Silence, je la salue, parce qu'au mois de janvier, elle consacrait un numéro aux alternatives dans l'Hérault. C'est comme cela qu'on a découvert ce centre de Cantercelle. Quel est son avenir aujourd'hui ?
Alors, entre la pédagogie et l'expérimentation, je dirais, technique et professionnelle, il y a une troisième donnée qui est apparue au fil du temps. C'est les visites, c'est l'intérêt du grand public, je dirais, parce que quelque part, tout le monde est habitant et se sent concerné par l'endroit où il vit et la façon dont c'est fabriqué et dont ça pourrait être. Et donc, il y a quelques années, l'association s'est penchée sur un projet pour Cantercelle qu'il s'agissait de faire un gîte. Et il se trouve que, en termes d'expérience d'habitat et d'habiter, et de changer d'habitude d'habiter surtout, le gîte remplit complètement son office. Et on se dit, eh bien, pourquoi pas développer de l'hébergement autour de cette thématique de l'habitat, en proposant aussi des activités plus grand public, si vous voulez. Et c'est une thématique qui englobe beaucoup d'autres sujets, si vous voulez. Ça, il n'y a pas que la construction, ça va sur la santé, ça va sur la décoration, ça peut être le jardin. Enfin, voilà, beaucoup de thématiques qui sont complètement aussi intégrées dans l'habitat, autant qu'on souhaite que l'habitat soit intégré dans l'environnement.
Voilà, c'est l'habitat de demain. Si vous êtes curieux, comme je le sais, vous l'êtes régulièrement, allez sur le site cantercelle.com et vous allez découvrir ce lieu inédit qui chante la terre et le ciel. Merci Annick.
Merci beaucoup Philippe Bertrand.
Carnet de campagne. Philippe Bertrand sur France Inter.
Ils ont signé leur courrier par les Frichiens, la référence à la friche de Mimi qu'ils ont conçue dans un quartier populaire de Figueroles à Montpellier, un îlot artistique né dans les années 2000. Grâce au propriétaire de ce lieu, Mimi Vergne, à sa disparition, le collectif des artistes, ils sont nombreux, a été obligé de quitter les lieux, faute de soutien public. Et alors, l'histoire a rebondi grâce à une entreprise privée de carrelage basée à La Vérune, commune limitrophe de Montpellier. L'aventure donc ne s'est pas arrêtée en si mauvais chemin. L'association de la friche de Mimi, a pris un nouvel envol avec des entrepôts de fabrication réhabilités grâce à un prêt que la friche a contracté auprès de la société. Et puis une seconde vie qui démarre avec la même éthique de lieu intermédiaire. Chacun peut se nourrir du travail des autres dans une parfaite transversalité. C'est ouvert, hein. C'est ni un théâtre, ni une salle de concert, c'est un peu tout à la fois. Un lieu interchangeable selon les projets et les saisons. Le collectif cherche de nouvelles structures culturelles et artistiques qui veulent intégrer ce lieu. La friche de Mimi.com. Éric Lucas, bonjour.
Bonjour.
Éric, vous êtes co-président de la Cosmopolitech. C'est un nouveau concept. En fait, ça désigne un immeuble très particulier qui accueille les associations de Béziers.
Oui, c'est ça. Il n'y a pas que à la Cosmopolitech que les associations peuvent être accueillies, mais effectivement, c'est une initiative privée, disons, à la base, qui a pour but de rassembler des associations qui souhaitent à la fois mener leurs activités d'association, mais aussi participer à un projet collectif.
Ouais. Et que s'est-il passé pour que vous décidiez ça en 2013 ? Vous parliez de déliquescence du centre-ville.
Oui, alors depuis pas mal d'années à Béziers, comme je crois dans des villes de dimensions comparables, on a observé un départ des classes moyennes du centre-ville vers la périphérie. Et du coup, il y a eu un certain appauvrissement de ce centre-ville, bon, à la fois du point de vue de l'immobilier, mais aussi du point de vue de la présence des commerces qui ferment petit à petit, et de toutes les propositions d'ordre culturel ou social qui, petit à petit, disparaissent de ce centre-ville.
Il y avait des raisons politiques aussi à cela ?
C'est certainement un déficit de certaines politiques de la ville, le fait de privilégier l'installation des grandes surfaces en périphérie, par exemple, mais il n'y a pas que ça, il y a d'autres phénomènes qui font que petit à petit, ce mouvement s'amorce, et quand il est amorcé, il semble qu'il soit très difficile de revenir en arrière.
Mmh. Sam qui nous a écrit, Sam est un des membres des Ogres de Barbac, nous dit cet immeuble qui accueille des associations, développe des ateliers, des débats, des rencontres, des concerts. Il faut vraiment les voir, il faut parler d'eux, ils en ont bien besoin. Combien vous hébergez d'associations chez vous à la Cosmopolitech?
On est actuellement environ une vingtaine d'associations. Alors pas seulement des associations, il y a aussi des groupes qui proposent une activité à la Cosmopolitech, une activité régulière. Par exemple, l'association Sur l'air de rien, qui donne des cours de chant, de danse. Mais il y a aussi le Tétou, qui est une association de soutien à l'allaitement, la Ligue des droits de l'homme, un journal en ligne qui s'appelle Envie à Béziers, qui tient ses réunions régulièrement et qui commence à faire des émissions de radio depuis la Cosmopolitech. Il y a également un collectif féministe. Le point d'appui, c'est du soutien scolaire et de l'alphabétisation. Les rendez-vous des Pitchouns, tous les mercredis matins, on propose aux petits-enfants de venir, avec leurs parents, bien sûr, et de participer à des activités. Ouais. Quand des personnes qui viennent pour des activités peuvent aussi en proposer, on les accueille à bras ouverts.
Ouais. Et quand on parle de Cosmopolitech, on pense cosmopolitisme. Je reviens à la question politique menée à... la politique menée à Béziers qui a fait campagne aussi pour alerter les Biterrois sur l'immigration qui était assimilée à de l'invasion. Vous faites preuve de résistance d'une certaine manière.
D'une certaine manière, j'aime bien votre terme, parce qu'en réalité, on n'est pas présent sur un plan politique.
Oui.
Mais il est vrai qu'à Béziers, il n'est pas forcément facile d'être le plus ouvert possible à tous les types de populations qu'on peut rencontrer dans ce centre-ville dans lequel on s'est installé.
Ouais. Alors sur le site de l'immeuble associatif de Béziers et de la Cosmopolitech, on peut voir le programme qui est très dense hein, des activités que vous proposez. Avec un point fort, à la fin de l'année, ça sera le festival L'Espoir s'invite.
Tout à fait. Alors ce festival s'est déroulé pour la première fois au mois de novembre dernier et on se propose de le rééditer tous les ans. Au mois de novembre dernier, c'était vraiment un tissu de propositions très différentes les unes des autres. On a pu rencontrer des spectacles de chansons avec Corentin Coco, qui est notre artiste associé, son collègue d'Anito. Une rencontre avec des lycéens qui rentraient de Palestine, et ça c'était proposé par l'association France-Palestine Solidarité. Vraiment un tissu de propositions sur tout un week-end. Donc on va le rééditer en fin d'année 2018.
Formidable. Le site c'est immeubleassociatifbeziers.wordpress.com, Cosmopolitech pour la page Facebook, et vous pouvez suivre les activités très nombreuses de cet immeuble des associations de Béziers. Merci Eric.
Merci à vous.
Petit rappel du programme du mois d'avril, Dordogne, Aude, Indre, j'insiste sur l'Indre, et l'Ariège. Pour l'instant, on reste dans l'Hérault, Nicolas Stoufflet. Le jeu des 1000 euros, c'est le troisième jeu à Montoulieu.